Philosophie de l'art, par Philippe Saint-Joseph, le 12 novembre 84.
De la philosophie, cette partie de la philosophie. Et ce n'est pas mauvais, je crois, au point de vue proprement de notre formation philosophique, de comprendre toujours ces diverses manières d'entrer en philosophie. Il n'y en a pas qu'une, heureusement. Parce que la philosophie regarde l'homme. Alors, si nous avons certaines expériences d'ordre artistique, ça doit nous aider beaucoup à pouvoir entrer dans la philosophie. Si nous avons certaines expériences d'ordre artisanal ou d'ordre du travail, ce que tous nous avons, ça doit nous aider. Alors évidemment, si on n'a qu'une expérience du travail désagréable, alors à ce moment-là, c'est une entrée obscure en métaphysique, en philosophie, c'est pas très drôle. Mais si le travail que nous faisions nous intéressait, c'est une manière d'entrer. Exactement comme l'expérience de l'amour d'amitié, comme l'expérience de la coopération. Mais il faut toujours se rappeler ça. C'est que nous avons diverses manières d'entrer en philosophie, pas une seule. Ce qui montre très bien que notre intelligence a des modalités très diverses. On n'est pas intelligent d'une seule façon. On est intelligent de multiples manières. Et la véritable forme d'intelligence, c'est de respecter cette diversité. Ne demandez pas à un poète ce que vous demanderez à, je ne sais pas, un philosophe. Ne demandez pas, par exemple, à Peggy d'être un philosophe. Il dit des choses extrêmement intelligentes, mais c'est un poète. Il les dit en poète. Et c'est ça qui est important, c'est que le philosophe a besoin du poète pour rester un homme. Il a besoin de l'artiste pour rester un homme. S'il n'était que philosophe, il ne serait plus homme du tout. Et alors sa philosophie serait lamentable. Au bout d'un certain temps, il y aurait quelque chose qui n'irait plus. Le philosophe a besoin de connaître des amitiés et de comprendre ce que c'est que l'ami pour développer toute cette partie affective. S'il a des amis qui sont de vrais hommes politiques, c'est très important. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très important de saisir que l'intelligence humaine se développe de diverses manières. Alors vous allez me dire, parmi le tableau que vous avez mis, vous n'avez pas mis les mathématiques. Je n'ai pas mis l'expérience mathématique, du reste. Est-ce que les mathématiques commencent par une expérience? Je ne vais pas entrer dans cette discussion, n'est-ce pas? Mais ce serait très intéressant de se poser la question. Est-ce que les mathématiques commencent par une expérience? Est-ce que les mathématiques peuvent-elles être un point de départ d'un développement philosophique? Historiquement, ça l'a été, avec les pythagoriciens. Les pythagoriciens étaient des mathématiciens et des hommes religieux, ce qui arrive assez facilement. Les mathématiciens sont facilement des mystiques. Les vrais mathématiciens sont vraiment des mystiques. Je me souviens que la première fois que j'avais été à Athènes, ça m'avait beaucoup frappé. J'avais rencontré un des grands matheux de l'université d'Athènes. Et il m'avait dit, il avait su que j'étais là, il était venu me trouver. Il m'avait dit, j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire une promenade le soir ensemble. Puisque vous enseignez la philosophie. Alors on est parti, mais alors l'heure était précisée. Non, il voulait avoir le coup de soleil sur l'acropole, être à tel endroit à ce moment-là, c'est-à-dire dans une vieille abbaye où il y avait eu des orthodoxes, des moines orthodoxes qui avaient vécu là. Tout un contexte pour un matheux, c'était merveilleux. Tous les petits papillons, vous voyez. Et alors il fallait de ça, ce contexte, pour pouvoir découvrir. Et puis alors, toute la conversation a été sur l'âme et l'âme spirituelle. On aurait dit un pythagoricien. J'avais exactement l'impression d'avoir un pythagoricien à côté de moi. C'était extraordinaire, c'était beau, du reste, c'était très grand. Parce que vivre à côté d'un pythagoricien, c'est pas si mal. Hein. C'est un homme religieux, un homme qui réfléchit sur les dimensions de l'homme, qui a son sens mathématique. C'était assez extraordinaire. Ça arrive, ça, de voir ça. De voir la manière dont les mathématiques peuvent et demandent un complément mystique. Parce que les mathématiques ne nourrissent pas beaucoup l'affectivité. normalement. Ça ne nourrit pas beaucoup l'affectivité. Alors, on a besoin d'un compensement, d'une complémentarité du côté affectif, et souvent, parce que les mathématiques donnent une noblesse à l'intelligence. C'est une grande noblesse de l'intelligence. Alors, les mathématiques peuvent conduire à l'ontologie. Les mathématiques demandent la complémentarité du côté mystique, parce que je crois que c'est nécessaire d'avoir cette complémentarité. Autrement, il y a quelque chose qui va manquer. Mais c'est très curieux et ce serait très intéressant de voir ces complémentarités au point de vue humain. Du fait même que chaque fois que vous êtes dans une perspective donnée, forcément vous vous particularisez. Le philosophe ne peut pas se spécialiser. Il n'y a pas de spécialisation du côté de la philosophie. Oui, les professeurs de philosophie se spécialisent, mais pas la philosophie. Il faut bien distinguer les deux. Les professeurs de philosophie se spécialisent parce qu'ils doivent avoir écrit des livres sur des matières particulières. Et là, ils se spécialisent nécessairement. Mais la philosophie ne peut pas se spécialiser puisqu'elle étudie l'homme. Et donc, on étudie l'homme dans toutes ses dimensions. Alors, nous allons partir d'une façon très générale. Je ne fais pas en premier lieu, comprenez bien, l'art comme tel. J'étudie l'activité de l'homme qui transforme le monde. Et je pars par le fait même de la grande expérience du travail. Alors, on pourrait commencer, ce serait une manière très élégante, de voir l'encyclique sur le travail. C'est un document. C'est un document intéressant. Pour le philosophe, c'est un document intéressant. Je n'ai pas le droit, si je travaille le travail, je n'ai pas le droit de négliger un document comme l'encyclique sur le travail. Or, vous savez bien, l'encyclique sur le travail commence par cette grande affirmation, il faut la lire, l'encyclique sur le travail, c'est bon, c'est excellent. Et puis vous verrez la manière dont je traite le travail, vous pourrez comparer. Bien avant l'encyclique, je faisais le cours sur le travail. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé particulièrement de voir la manière dont le Saint-Père regardait le point de vue du travail. Alors, dans une encyclique, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il part alors du grand commandement, dominer l'univers. Personnellement, j'avais toujours vu de cette manière-là, si vous voulez, l'homme, dans sa dimension, celui qui doit dominer l'univers. C'est-à-dire l'homme face à l'univers. L'homme transformant l'univers. C'est une des dimensions. L'homme, il est né dans un univers, il le transforme. Transformer l'univers, chacun d'entre nous, pas énormément, mais depuis qu'on est venu ici, on a transformé quand même certaines petites choses. On a fait pousser des pommes de terre, c'est une transformation. Ça. Et alors, faire pousser des pommes de terre, c'est le dialogue de l'homme et de l'univers. L'homme dialogue avec l'univers, c'est une première dimension. Deuxième dimension, l'homme dialogue face à l'homme. L'homme face à l'homme, c'est l'amour d'amitié. Je ne suis parfaitement en face de l'homme que quand je suis en face d'un ami. Quand je suis en face d'un ennemi, je fuis. Donc je ne suis pas face à un homme. Quand je suis en face d'un indifférent, comme dans le métro, pas très face à l'homme. Je découvre l'homme par la vie. C'est pas du tout face à l'univers, c'est face à la vie. Puis troisième dimension, un peu la synthèse des deux, la coopération. Je peux considérer l'ami, c'est quelqu'un qui est avec moi, alors la coopération qui va avoir de l'efficience. Toute coopération implique l'efficience. L'amitié est au-delà de l'efficience, il n'y a pas de coopération sans efficience, sans une certaine efficacité. Je coopère pour l'efficacité, pour réaliser une œuvre. Une œuvre exactement comme ici. Ce n'est pas la même œuvre. C'est une une œuvre commune pour arriver à un bien commun. Bon. J'ai là donc les trois grandes dimensions fondamentales de l'homme. Il faut toujours les penser. Alors, nous allons réfléchir sur la dimension de l'homme face à l'univers. Cette dimension de l'homme face à l'univers, je ne peux la connaître parfaitement que dans la mesure où je transforme l'univers. Et c'est pour ça que le Saint-Père est parti dominer l'univers. Le Saint-Père avait souligné que cette dimension était restée toujours la même, avant le péché ou après le péché. Ce qui est tout à fait juste. Dominer l'univers reste la même dimension. Le travail a été modifié par le péché en devenant un travail pénible. Vous travaillez à la sueur de votre front. Vous voyez, celui qui dit « moi je veux bien travailler, mais pas plus », dès que je commence un tout petit peu d'avoir chaud et puis de suer, ben je m'arrête. Vous voyez, alors il s'arrête au... Il ne veut pas accepter que le travail implique des difficultés, des luttes, ce que nous allons voir. Le travail implique des luttes. Le travail implique nécessairement, ça ne peut pas se réaliser autrement. Le travail implique une lutte. Alors, nous partons de l'expérience du travail que nous avons tous. C'est l'expérience la plus commune de tous les hommes. L'expérience la plus générale. Ça, je crois qu'on peut le dire que dans notre vie, c'est l'expérience qui a pris le plus de place. C'est normal, nous sommes des travailleurs. Et nous faisons partie de la communauté des travailleurs. D'une façon ou d'une autre, nous faisons partie de la communauté des travailleurs. Et si on ne travaille pas, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est si on est paresseux, on ne travaille pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on ne veut pas travailler, ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas entièrement humain. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience du travail? Je vais essayer tout simplement d'analyser dans l'expérience du travail tous les éléments. C'est une expérience complexe, extrêmement complexe, parce que c'est tout l'homme qui est engagé dans le travail. Si c'est un travail humain, je parle de l'expérience du travail humain, parce que le travail est humain. Le Saint-Père l'a rappelé. Mais ce n'est pas parce que le Saint-Père l'a rappelé que je le dis au point de vue philosophique, je le dis tout simplement par expérience, c'est que le travail est humain. C'est une activité humaine et typiquement humaine, et qui doit rester une activité typiquement humaine. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la machine qui travaille, quand on parle du bœuf qui travaille, est-ce que c'est encore le travail ou c'est métaphorique? Il faut vous poser la question. En réalité, la machine ne travaille pas, c'est l'homme. Mais on l'applique à la machine. Est-ce que l'âme travaille? Non. Demandez-lui. Non, il ne travaille pas. Tandis qu'un manœuvre travaille. Quelquefois, un travail qui n'est plus très humain. Mais il travaille. Et il le sait. Il en porte les conséquences. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail? Dans ce qu'il a, oui, je pose la question, qu'est-ce que c'est que le travail? Je m'interroge. Je vois d'abord la très grande diversité du travail. Ça, c'est facile à faire. C'est très, très facile à faire. Le travail intellectuel, travailler comme étudiant, grave, sur du papier. On essaie de penser. Travailler manuellement, travailler en usine, toute espèce de travail. Travailler comme un artiste. On travaille. Modalité du travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Bien, je crois qu'on peut dire, comme première recherche au point de départ, et on verra si c'est vrai, qu'on peut dire que le travail, c'est toujours la transformation d'une matière. Tout travail implique une transformation d'une matière. C'est pour ça que tout travail est efficace. Tout travail implique une efficience. D'une matière, je prends matière ici d'une façon très générale. Je vous l'ai déjà dit. Matière, un petit peu comme les marxistes l'entendent. Ce n'est pas parce que les marxistes le disent. Mais là, ils ont quelque chose de juste. Le travail, c'est la matière, c'est ce qui est capable de transformer. Vous comprenez très bien. Ça se définit en fonction du travail. C'est vrai, une matière en fonction du travail, c'est ce qui est capable de transformer. Tout ce qui est capable d'être transformé est matière. Et dans la mesure même où il est capable d'être transformé, il est une matière. Au sens très général. C'est-à-dire, il est en puissance. Philosophiquement, on dirait ça. Donc le travail, transformation d'une réalité en puissance. C'est-à-dire, d'une matière. En vue d'une œuvre. Si je travaille, c'est pour réaliser une œuvre. Il y a un fruit. Je ne travaille pas uniquement pour le plaisir de travailler. Avant d'être un peu... Dans les asiles, vous voyez toujours ces gens. Je l'ai vu. Je crois qu'on voit ça partout. Un homme qui ramasse assis, qui ramasse une pierre, qui dépose sur la terre, puis reprend la pierre. La pierre, puis on la et ainsi de suite. Mais, pas de finalité. Et vous voyez bien qu'elles sont là, c'est du travail humain. C'est une espèce de manie. Le besoin de bouger, faire quelque chose comme ça. Le travail est en vue d'une œuvre. Et quand l'œuvre est faite, on s'arrête. Si on est très très pris, on recommence immédiatement. Mais normalement, il y a un arrêt du travail dans une œuvre, au moins un arrêt momentané, qui va réaliser une détente, un repos. Dieu, après avoir réalisé l'homme et la femme se reposent. C'est une œuvre, on se repose. C'est normal. Alors, quand il n'y a pas d'œuvre visible, vous voyez, on pose un caillou, on met par terre, on prend un caillou, on met par terre, il n'y a pas d'œuvre visible, on ne se repose pas. On peut faire ça indéfiniment. Je ne vois pas quand ça s'arrête. Moi. Quelqu'un qui a commencé ça, il peut continuer. Il s'arrêtera quand il sera fatigué, je vais me dire, oui, quand il sera fatigué. Mais le travail en lui-même, alors à ce moment-là, n'est plus du travail. Le travail a une limite. La limite du travail, c'est l'œuvre. Parce que l'œuvre mesure le travail. Et c'est vrai, parce que je m'arrête. Et l'œuvre implique deux choses. La matière est présente dans l'œuvre et quelque chose du travail est présent dans l'œuvre. Si je regarde une œuvre, je vois tout de suite la qualité du travailleur. Et ceci dans toute œuvre. La qualité du travailleur, dans des œuvres d'art avant tout. On voit tout de suite. Dans des œuvres artisanales aussi, on voit la finesse de celui qui a travaillé. Au contraire, on voit la maladresse de celui qui a travaillé. Maladresse énorme, ça se voit. Dans la cuisine, ça se voit. Dans les plats, ça se voit tout de suite. Si c'est cuit au bon moment, si c'est... Alors, tout de suite, c'est la maladresse, ou au contraire, l'art culinaire présent dans l'œuvre. Oui, vous, dans n'importe quelle chose, l'œuvre comme telle fait appel à la matière. Vous direz, c'est magnifique, c'est dommage qu'on n'aurait pas pu employer une matière plus noble. Quelque chose de si beau et si... Ah. Ou bien au contraire, vous direz, oh, c'est dommage de massacrer une telle matière. Vous avez deux jugements tout à fait différents. La distinction de la matière et de la forme, vous voyez, c'est intéressant, parce que la distinction de la matière et de la forme provient de l'œuvre. Tout simplement, le premier analogie de la distinction forme et matière, cette fameuse distinction, elle provient de l'œuvre. C'est à partir de l'œuvre artistique, cette petite chose, petite constatation que dit Aristote à propos de l'œuvre, il y a le cercle d'airain, il y a le cercle de bois, il y a le cercle de bronze. Toutes les matières, il faut avoir un cercle.
toujours le fait qu'il est dans la matière, dans telle matière, dans le monde. Il est dans le marbre. Là, vous distinguez les deux. Et Aristote fait la comparaison. Si l'âme humaine pouvait être dans la chair, dans le bois, dans le bronze, je ferais la distinction entre l'âme et le corps. Parce que l'âme humaine apparaît toujours à travers la chair, on a beaucoup de peine, la chair humaine, on a beaucoup de peine de distinguer l'âme et le corps. C'est très très joli comme constatation. Vous voyez, Platon, on le verra dans la République, il croyait qu'il y avait des corps, des reins, un corps d'or, le philosophe est un corps d'or. Puis il y a des magistrats, le corps d'argent, puis les corps de Alors, on voit très bien comment, au fond, on veut distinguer de cette manière-là dans l'œuvre. L'œuvre, la forme et la matière. Bon, ça, je crois qu'on peut tous saisir ça. Le travail existe dans la mesure même où il y a une œuvre qui est produite. Quand vous ne voyez pas l'œuvre, vous dites, mais y a-t-il travail ou pas? Je n'en sais rien. Il n'y a rien qui se produit. C'est le raisonnement que fait un professeur, quelqu'un qui dit, je travaille beaucoup. Alors vous allez me faire un petit travail. Très bien. Alors on donne le sujet. 3 mois après, plus de travail. Rien. Est-ce que vous travaillez? Je travaille beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Et alors? Ah non, rien encore. C'est tellement difficile d'écrire. C'est tellement difficile de produire quelque chose. Et on ne peut pas juger du travail sans l'œuvre. C'est par l'œuvre qu'on juge le travail. Autrement, on peut faire confiance aux gens. Confiance, c'est bien que vous travaillez beaucoup, c'est bien que vous travaillez beaucoup, mais on aimerait quand même voir un peu le fruit. On aimerait un peu voir le fruit. Si je vois jamais le fruit, c'est un peu ennuyeux, parce que peut-être que c'est comme, vous savez, le moulin à café qui continue de tourner indéfiniment, il n'y a plus de grain à café. Mais ça continue de tourner. Normalement, quand vous tournez l'ancien moulin à café, parce que maintenant, mais l'ancien moulin à café, n'est-ce pas, vous tournez tant qu'il y avait des grains. Qu'il y avait plus de grains, vous arrêtez. Sauf si vous êtes un tout petit peu déjà un peu dans l'asile. Alors vous continuez de tourner les grains. Et les grains, pardon, il n'y a plus de grains. Le travail inefficace, est-ce que c'est encore un travail? C'est très curieux, ça. Et c'est important. Le travail demande d'être efficace. Toute la philosophie de l'efficacité et de l'efficience, elle se rattache au travail, à cette transformation, l'efficacité. Il ne faut pas la supprimer, l'efficacité. C'est très très important. Autrement, si vous supprimez l'efficacité, vous tombez dans une moralisation. Et moraliser, c'est dire l'efficacité, ça m'est bien égal. Moi, je suis pour la finalité. La finalité dans le travail, c'est l'œuvre, et donc c'est l'efficacité. S'il n'y a plus du tout d'efficacité dans notre vie, s'il n'y a plus du tout d'efficacité dans notre vie, bien nous moralisons. Et quand je dis qu'on moralise, il y a quelque chose qui ne va plus. Et c'est la machine de... On tourne à... sans qu'il n'y ait plus rien du tout à moudre. Plus rien du tout, on tourne indéfiniment. Très important, ça. C'est la moralisation quand il n'y a plus d'efficacité du travail. Le travail de transformation d'une matière. La transformation d'une matière, ça implique une efficacité. Et l'efficacité implique nécessairement une vertu, une force, une capacité, une énergie, c'est au point de départ de cette efficacité, pour permettre de réaliser ça. Le travail va exploiter l'homme, va développer l'homme dans sa force. Et va lui permettre justement de réaliser. Il faut être co-efficient pour que l'efficacité arrive. Et donc l'homme est co-efficient dans le travail. Et il est co-efficient et il en a conscience. Il sait qu'il transforme la matière. Il sait qu'il le fait. Cette transformation de la matière va donc impliquer une lutte. L'efficacité et une lutte. Toujours. Le travail implique toujours une lutte. On comprend pourquoi, du reste. Il ne faut pas dire que la lutte, c'est le travail. Hein, mais je dis que le travail implique toujours une lutte.
Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'agir de l'extérieur sur la matière. Je ne dis pas que je la violente. Agir de l'extérieur, c'est violenter quelqu'un. Mais agir de l'extérieur sur une matière, pour que cette matière devienne une œuvre, cette matière qui est en puissance pour qu'elle devienne une œuvre, je l'actue, je l'ennoblis. Transformer du marbre en statue, c'est ennoblir le marbre. C'est pas le violenter, c'est l'ennoblir. Alors vous allez me demander si un petit lapin, en le tuant et en faisant une œuvre particulière, un bon pâté, est-ce que c'est l'ennoblir ? Mais parce que bon, c'est une œuvre, le travail transforme une matière. Alors, je fais l'attention. Le lapin mort est ennobli par le pâté. Mais pas le lapin vivant. C'est toute la question est là. Parce que le lapin devient une matière au moment où il est mort. Avant, il n'est pas une matière. Et donc, c'est le lapin mort qui va être ennobli par une œuvre. Tandis qu'avant, alors, il faut se demander si on peut le tuer. Toute la question est là. Est-ce que je peux le tuer ou pas ? Mais une fois qu'il est tué, je peux l'ennobler. Et c'est celui qui tue qui fait passer qui ? Alors, c'est la grosse question. Est-ce que j'ai le droit de tuer un vivant pour en faire une matière capable à me nourrir ? Alors, je ne traite pas la question ici, ça n'a rien. Il y a toute une spiritualité, vous savez bien, qui existe en disant nous ne tuons pas les animaux, nous ne voulons pas manger les animaux parce que c'est quelque chose qui diminue, qui empêche la vie, qui arrête la vie. Et c'est vrai, il faut réduire le vivant à être un cadavre pour pouvoir l'ennoblir en faisant une œuvre. Pas avant. Donc je peux dire que le travail implique une transformation dans une lutte, mais que cette lutte n'est violente pas la matière, parce qu'elle ennoblit la matière. C'est donc pas une corruption, c'est un ennoblissement. Et l'œuvre est toujours un ennoblissement. Si l'œuvre n'était pas un ennoblissement de la matière, ça pose des tas de problèmes, ça, vous savez, au point de vue philosophique. Si l'œuvre n'était pas un ennoblissement de la matière, est-ce que j'aurais le droit de le faire ? Décomposer une réalité pour en faire une œuvre, est-ce que si cette réalité dernière c'est un résidu et non pas un ennoblissement de la matière, je crois que alors j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de concourir à un avilissement. J'ai pas le droit de concourir à une désagrégation. J'ai le droit toujours de concourir à un ennoblissement de la matière. C'est l'œuvre. Et c'est en sens-là que l'œuvre est fin. Fin et fait. Scolastiques diront finis effectus. La fin est faite, c'est très curieux. C'est la fin est faite qui est une. C'est l'œuvre est une fin est faite. Donc ça finalise, et en même temps, c'est le résultat. Mais c'est un résultat qui ennoblit la matière. Et donc je peux dire que c'est toujours en vue de l'œuvre que je travaille. Et que j'assume la matière pour lui donner quelque chose de plus. Une valeur nouvelle, je l'ennoblis. Je la revais d'une forme nouvelle qui fait que cette matière est ennoblie. Dans certains cas, c'est très net. Hein? Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je me poserai la question, est-ce que c'est encore du travail ? Parce que le travail implique une coopération de l'homme et de la matière par le travail pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus. Tandis que si je n'ennoblis pas, est-ce qu'alors je ne tyrannise pas ? Tyranniser, c'est réduire quelque chose à un état d'esclavage. C'est-à-dire, c'est le maître dans un état inférieur à lequel il était avant. Tyranniser un homme, le rendre esclave, c'est très facile. On peut tyranniser un animal, on peut tyranniser une matière. Alors, réduire la matière à quelque chose qui est inférieur à ce qu'elle était avant, très délicat. Alors, vous pourriez vous dire, oui, c'est un moment en autre chose. Ça pourrait faire ça. Ça permettrait de maintenir que l'œuvre est toujours en vue d'un anoblissement. Il peut y avoir un moment où l'on désagrège en vue d'une nouvelle composition. Alors il peut y avoir un moment où, de fait, ce n'est pas vraiment l'œuvre, c'est un moment du travail. Dans un moment du travail, on peut avoir comme un moment où on se dit, est-ce que vraiment l'œuvre est inférieure au point de départ? La matière est comme désagrégée, désagrégation d'atomes. Elle est désagrégée. Mais si je m'en sers pour quelque chose qui sera l'œuvre dernière et qui est en plus qu'un aboutissement, alors ça légitime ce passage. Mais ça légitime ce passage, ça légitime ce moment-là. Parce que la matière, c'est quelque chose justement d'extrêmement indéterminé. Et donc ça peut aller très loin dans la modification de la matière. Je ne peux pas savoir jusqu'où peut aller la modification de la matière. Je ne peux pas le savoir. Je peux savoir que c'est une transformation de la matière qui est impliquée dedans. Donc, une efficacité, une lutte. Plus la matière est transformée, plus la lutte est forte. Ça, c'est sûr. Mais cette lutte demande une coopération. Là, je crois ce qui peut philosophiquement montrer ce que c'est que le travail. Précisons encore. Puisqu'il s'agit d'efficacité, puisqu'il s'agit d'une lutte, il faut que l'homme domine toujours la matière. Il faut qu'il la domine tout le temps. Alors, il peut être dominé par l'œuvre, d'une certaine manière, puisque l'œuvre est plus que la matière. Mais jamais totalement, puisque l'œuvre est le fruit de son travail. Et donc, le fruit de sa pensée. Et donc, d'une certaine manière, il domine toujours l'œuvre. Mais il peut se faire que, par le point de vue de la matière, qui est un inconnu, l'homme puisse réaliser des outils qui vont se retourner contre l'homme. Vous savez, c'est la remarque que fait Saint-Père dans son encyclique Redemptorum. C'est très curieux. Et on sent très bien que c'est une de ses grandes préoccupations. L'homme peut arriver à réaliser des outils qui vont devenir un danger pour l'homme. Et donc, à partir de ce moment-là, l'homme ne domine plus son travail. Du moins, il ne domine plus l'œuvre. Et l'œuvre est capable de se retourner contre l'homme. Alors, le Saint-Père fait cette petite remarque très jolie. L'homme, au début, par son travail, a dominé l'univers. Il a dominé les animaux pour la survie de l'homme. Et l'homme est en train de construire maintenant des monstres qu'il ne détruit pas parce que c'est son œuvre. Et donc il les aime. On aime toujours ses enfants. Alors il ne les détruit pas, et cependant ces monstres risquent de le détruire. Et c'est vrai, et tout ça c'est le problème du travail. Alors est-ce que ça reste un travail humain? Est-ce que lorsque l'homme fait des monstres, c'est-à-dire une œuvre qui est capable de détruire l'homme, est-ce que, à ce moment-là, nous ne sommes pas en face d'une situation limite? Et ce n'est plus un travail humain. L'homme se condamne par son travail, par le fruit de son travail, puisque cette œuvre risque de détruire l'homme. Alors là, nous touchons toujours cette chose très importante au point de vue philosophique, c'est que le travail implique une coopération de l'homme et de la matière, en vue de l'homme, pour l'homme. Mais le jour où l'homme tyrannise la matière d'une manière telle que l'œuvre risque de se retourner contre lui, nous sommes en face d'une situation limite par rapport au travail. C'est-à-dire, nous sommes en face de quelque chose qui n'est plus humain, qui est vraiment une situation limite. Puisque l'œuvre, au lieu d'être utile à l'homme et de permettre à l'homme d'être plus, l'œuvre devient un danger pour l'homme. Et le jour où l'œuvre est un danger de l'homme, est un danger pour l'homme et que cette œuvre provient de l'homme, c'est que l'homme s'est mis lui-même dans une situation impossible. Alors ça, c'est un problème. On le verra, ça, au terme. Je le souligne tout de suite parce que c'est intéressant de comprendre que quand je dis que le travail transformation de la matière en vue d'une œuvre, vous comprenez qu'il y a toute une échelle de l'œuvre. Il y a toute une échelle. On essaiera d'étudier ce que c'est que l'œuvre. Mais il y a toute une échelle. Là, il faut souligner que l'homme doit dominer l'œuvre pour rester un travail humain. Parce que cette œuvre, c'est pour lui. Elle est finalisée pour l'homme. L'œuvre est pour l'homme. Elle est pour l'homme. Elle peut être pour Dieu, c'est évident. Elle peut être pour l'homme et pour Dieu. Alors, on aurait une œuvre religieuse. Une œuvre religieuse, elle est pour Dieu. Elle peut être pour la glorification du Christ, on aurait une œuvre chrétienne. À partir de là qu'on verrait ce que c'est que la liturgie. C'est l'œuvre. L'œuvre qui glorifie le Christ. Et une liturgie religieuse, c'est l'œuvre qui glorifie Dieu. Ou une œuvre purement humaine, c'est pour le bien de l'homme. Le bien utile, ou le bien agréable, mais c'est pour le bien de l'homme. Alors, comprenons que le travail doit être efficace. S'il doit être efficace, on va comprendre comment, très vite, l'homme va perfectionner son travail par l'outil. L'outil est pour permettre une efficacité plus grande. Alors, il peut se faire, là encore, situation limite. Vous voyez, il faudrait saisir toutes les situations limites du travail. Parce que ça nous aiderait beaucoup à comprendre mieux ce que c'est que le travail. Dès qu'on saisit les situations limites, on est en face de quelque chose qui pour nous est très important. Oui, la situation limite, vous savez, c'est Jaspers qui en a parlé le premier. Et c'est quelque chose que je crois très intéressant. Très intéressant en philosophie humaine. Bien comprendre ce que c'est que la situation limite. La situation limite, c'est lorsque le conditionnement est tel qu'il empêche la finalité de se manifester. Donc c'est lorsque le devenir l'emporte sur l'être. En gros, c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. C'est lorsque le devenir l'emporte sur l'être. Le devenir est devenu tellement, tellement rapide qu'on ne voit plus la finalité. Alors vous allez voir là encore une situation limite avec l'outil. L'outil permet une efficacité plus grande. C'est parce que ma main, l'homme travaille avec sa main. Le travail, on peut dire que c'est l'intelligence lié à la main, d'une manière de regarder la chose, du côté du sujet. Il y a des gens, si ma main était un outil absolument parfait, je n'aurais pas besoin d'instrument. Si vous pouviez prendre un œuf dans votre main, et puis votre main sur le feu, et attendre que l'œuf se mette à cuire, vous n'auriez pas besoin d'un instrument. C'est parce que votre main est une main de chair et qu'elle ne peut pas supporter certaines chaleurs que vous avez besoin d'un outil et que vous avez inventé un outil qui permet, lui, d'aller à telle chaleur. Si vos ongles étaient particulièrement tenaces, vous n'auriez pas besoin d'un tournevis. Bien évident, vous auriez quelque chose qui serait particulier. Et ainsi de suite. Hein. C'est très curieux. C'est le prolongement de la main, l'outil. C'est le prolongement de la main. L'outil, c'est premièrement ça. C'est le prolongement de la main pour permettre une efficacité plus grande. Donc, une dureté, puisqu'il y a une lutte. Il faut que l'outil soit plus dur que la matière que je travaille. Quand je travaille une matière qui est plus dure que ma main, ça ne va plus. J'ai besoin d'un outil. Et l'outil, c'est justement ce qui va. Parce que dans une lutte, il faut que celui qui travaille,
qui domine soit plus fort que celui qui est dominé. Ça ne peut pas être autrement. Et donc l'outil sera là pour me permettre de dominer de plus en plus une matière de plus en plus dure. Et par le fait même d'en réaliser une œuvre qui sera de plus en plus tenace, de plus en plus rigide, de plus en plus forte, elle aussi. On voit très bien ça dans tout ce que représentent les outils pour l'armement et les œuvres qui sont pour la lutte. On va toujours vers quelque chose de plus rude, de plus dur, de plus inflexible. Et il faut que l'outil puisse permettre cela. Alors évidemment, il y a toutes les possibilités pour que l'outil puisse réaliser et manipuler la matière, mais l'outil domine la matière. Il est du côté de l'efficacité. Il est aussi du côté de la rapidité. Donc, efficacité plus grande dans une lutte où on doit dominer. Et une efficacité plus grande, parce que grâce à l'outil, je peux réaliser des choses beaucoup plus efficaces. L'outil lié à l'énergie, et ainsi de suite. Parce que l'outil vient normalement modifier le travail. Et ça, au point de vue artisanal, nous le voyons tout de suite. Hein. Si on prend un outil particulièrement bien aiguisé, on pourra réaliser un travail plus fin. Et ainsi de suite. Il arrive un moment où l'outil devient tel qu'il est non plus celui qui conditionne, mais qui détermine. Oui. Situation limite de l'outil. Le passage du conditionnement à la détermination. Alors, le passage du conditionnement à la détermination, c'est quand même quelque chose de très important. Ça. C'est toujours du travail. Mais ce n'est plus l'homme. C'est bien l'homme, toujours, puisque c'est l'homme qui a fabriqué l'outil. Mais il y a un travail à l'état second. Je ne dis pas qu'il y a un méta-travail, parce que je dirais plutôt l'inverse. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut dire. En dessous du travail humain, il y a le travail de l'outil. Et quand l'outil peut, dans l'automation, peut arriver à remplacer le travailleur, c'est l'outil qui lui-même détermine tout. Alors, on arrive à avoir des automates, qui vont remplacer le service. Et l'homme qui service, déterminé de nous, bien remonté, il va faire son métier toute la journée. Exactement ce qu'il faut. Déterminé, mais c'est lui qui détermine, c'est plus l'homme qui détermine. Donc l'homme doit abdiquer un aspect de son travail pour ne plus être que le surveillant de l'outil. Et il arrive à une certaine limite du travail où l'homme n'est plus qu'un surveillant d'un outil. Et quand l'homme n'est plus qu'un surveillant d'un outil, est-ce que c'est encore du travail? Surveiller des gosses, c'est un travail. Surveiller un outil. Être là uniquement pour attendre le signal d'alarme. Signal d'alarme, on bondit, et alors là, on fait ce que l'outil ne peut pas faire. Puisque le signal d'alarme, c'est la limite de l'outil. Il crie. Il est dans l'état de limite. Il ne peut plus arriver, il ne peut pas faire. Il déraille. Signal d'alarme. C'est très curieux, ça. Ce travail qui se transforme en observateur et surveillant. Et c'est l'outil qui prend une place énorme. Parce qu'enfin, le travail d'aujourd'hui, c'est l'outil qui prend une place. Alors, l'outil a été fait par l'homme, c'est bien évident. Mais une fois que l'homme l'a fait, l'homme devient esclave de l'outil. Dans toute l'économie moderne, nous savons très bien le rôle que ça joue. Puisque si vous investissez énormément sur un outil, et qu'au moment où vous l'avez terminé, on ne s'intéresse plus à ça, vous voyez ce qu'il faut faire. Des propagandes énormes pour faire croire aux gens que c'est encore très important. Alors que tout le monde sait que ce n'est pas important du tout. C'est que terminé, on a complètement raté. Alors, voyez ça, c'est toujours le travail. Alors, c'est l'outil qui prend une importance énorme. Et à côté de l'outil, et avec l'outil, ce sera la méthode. Plus l'outil est complexe, plus il faut une méthode. Quand un outil est simple, il ne faut pas de méthode. Hein. On ne vous donne pas une méthode pour cuire un œuf, le coq. Hein, non, vous savez, ça vient d'un peuple en bougeant dans la main d'un casserole qui vole. C'est pas ça, on m'étonne. Au début, on dit que c'est très bien, tu vois, chauffer l'eau comme ça, puis tu mettras l'œuf, tu tiendras le temps qu'il faut, m'étonne. Mais quand l'outil devient extrêmement compliqué, alors la méthode devient très importante. Et on vous dit surtout, hein, observez bien l'ordre, autrement ça va casser. Quelque chose de beaucoup plus effrayant, c'est une chose affolante. La méthode, c'est très curieux. Vous n'êtes plus fixé sur la finalité, vous ne la voyez même plus. C'est la méthode qui remplace la finalité. Situation limite. Donc c'est très important de voir la situation limite du travailleur. Parce que là, vraiment, on touche la situation limite du travailleur. Bon, on continuera. C'est de saisir tous les éléments qui sont dans le travail. Vous voyez, la complexité du travail humain. Tous les éléments qui sont dedans. Alors, on va essayer de faire comme ça pour voir ensuite tout ce que la philosophie de l'activité artistique implique comme différentes études. Il y a l'étude de l'outil. Il y a l'étude de la matière, l'étude de l'efficacité. Tout ça est impliqué dans une philosophie du travail.